Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun, à la régie Henri Méchel, et c'est Jean-Claude Galerne qui aujourd'hui va nous raconter au micro le sujet de notre émission Histoire et Mémoire. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour. Voilà,
rapproche bien le micro de toi. Bonjour. Alors, quel est le sujet du jour ?
Alors, on va parler de Louis XVI. Pourquoi Louis XVI ? Parce que le mois de janvier, c'est peut-être le mois des rois, mais on a surtout guillotiné notre roi Louis XVI. Mais qui était-il, cet homme ? Est-ce qu'on le connaissait bien ? Louis Auguste est né le 23 août 1754. Il est le petit-fils de Louis XV. Quatrième enfant de Louis de France, le dauphin. Le père de Louis Auguste devrait être roi après le décès de Louis XV. Et puis viendrait dans l'ordre son frère, le duc de Bourgogne, en 1751, puis Xavier, en 1753. Mais Xavier meurt en 1754. Il y aura encore derrière d'autres frères, célèbres, certes, puisqu'il y aura les futurs Louis XVIII et Charles X. Le gouverneur de cette fratrie, le duc de Vauguyon, les appelle les quatre F. Oui, quatre frères, mais ce n'est pas pour cela. Le duc de Bourgogne, c'est la finesse, l'élégance, le port. Ce sera le fin. Louis XVIII, c'est le faux, un peu hypocrite. De façon triviale, on dirait aujourd'hui que c'est un faux cul. Et Charles X, alors lui, c'est la franchise. Donc on l'appellera le franc. Et notre futur Louis XVI, duc de Berry dans tout cela, comment va-t-on l'appeler ? Eh bien, c'est le faible, le F de faible, le timide, le renfermé dans sa coquille, le solitaire. Il aime qu'on lui fiche la paix. Pas d'embrouille, pas de conflit. Un petit père tranquille qui vit son enfance dans l'ombre de ses frères. Les années 50 se passent à peu près bien. Louis XV, cet arrière-petit-fils de Louis XIV, roi à 5 ans et toujours vaillant. Il a 44 ans à la naissance de Louis Auguste et il est heureux comme un grand-père qui voit la famille s'enrichir d'un enfant, un garçon. Les cloches carillonnent dans Paris, on tire un grand feu d'artifice. La décennie suivante sera bien plus triste. Si Louis XV est bien-aimé de son peuple, en fin de compte, bien-aimé, oui, il n'a jamais pris aucune mesure. Il n'a rien fait qui puisse déplaire, mais le peuple se lasse un peu de ce roi fainéant qui s'intéresse plus au beau sexe et à Madame de Pompadour, la poisson, qu'aux affaires du royaume. En 1761, le duc de Bourgogne, le premier des fils, qui se voyait déjà sur le trône et qui, un peu prétentieux, certes, fut du roi, à n'en pas douter, mais qui disait « Roi, oui, mais pourquoi ne suis-je pas né Dieu ?» Il va, hélas, tomber malade et sera emporté par la tuberculose à 10 ans. La Pompadour meurt à son tour, mais cela n'arrange pas pour autant la popularité de Louis XV, car les finances de l'État sont au plus bas. Et on va tirer la bourse du clergé de la noblesse. L'entourage du roi est mis à contribution et ça commence à grogner dans les chaumières. Le 20 décembre 1765, le dauphin Louis, père de Louis XVI, meurt à son tour. Et voilà notre Louis-Auguste qui devient dauphin. Pour le moment, ça ne le touche pas beaucoup. Il continue à s'instruire. C'est un élève réservé, un peu taciturne, mais brillant. Il parle couramment anglais, allemand, espagnol, étudie le latin et le grec. C'est un prince des Lumières, certainement le roi le plus cultivé que la France n'ait jamais connu. Mais dès qu'il a des loisirs, il va bricoler ses horloges et ses serrures. De temps en temps, il aime bien monter à cheval et chasser, parcourir la campagne autour de Versailles, se retrouver au calme, en pleine nature. La décennie se termine mal pour Louis XV, car en 1768, Marie de Ziska, son épouse, meurt. Enfin, il la voyait très peu, depuis longtemps. Cette dernière était très cultivée, polyglotte, elle s'intéressait à la peinture et à la musique. Elle fit venir Mozart à la cour. Mais Louis XV le remarqua à peine. Bof, ce n'était qu'un musicien. Le gamin, Louis XVI, grandit. Il a 16 ans. Il mesure plus d'1m80. Et c'est en cette année 1770 qu'il va prendre pour épouse la dernière fille de Marie-Thérèse d'Autriche, une Habsbourg, celle que l'on surnomme l'impératrice, qui, en ce XVIIIe siècle, sera considérée comme une des femmes les plus influentes de son temps avec l'impératrice Catherine de Russie. Marie-Thérèse d'Autriche aura 13 enfants et la dernière fille s'appellera Marie-Antoinette. La petite dernière est jolie. Elle a 15 ans à son mariage avec Louis XVI. Lui, il en a 16 quand même. Elle est séduite. Le futur roi de France est très grand, bien fait de sa personne. Cultivée, elle s'en moque un peu, car ce qui l'intéresse, c'est la vie de cour, les fêtes, les bals, les jeux. Elle est frivole, joyeuse, insouciante comme une gamine de 15 ans. 4 années plus tard, le 10 mai 1774, Louis XV meurt. Le roi est mort, vive le roi. Et là, notre Louis XVI murmure, « Oh là là, quel fardeau, l'univers va me tomber sur la tête. » Car Louis XVI sait que la situation financière de la France est catastrophique. Le règne de Louis XV n'a rien arrangé, des dépenses outrancières du roi Louis XIV et de Louis XV. Le peuple gronde, mais le clergé et la noblesse aussi. Et puis, Louis XV n'a pas eu une vie moniacale. Alors il faudrait remettre de l'ordre dans la maison. Louis XVI en impose. Il mesure maintenant 1m93. C'est un des plus grands rois avec François Ier qui mesurait 1m98. Il arrive donc au pouvoir avec des intentions certaines, car il n'est pas sot. Il connaît bien l'économie du pays, la situation financière catastrophique, et il veut soulager la misère du peuple. Les rois, dit-il, sont responsables de toutes les injustices qu'ils n'ont pas pu empêcher d'être commises. Il faut rétablir aussi un peu de moralité après les passages de Louis XV et de l'abbé Dubois. Certes, la Pompadour n'est plus, mais la Du Barry, dernière conquête du grand-père, est encombrante, avec sa beauté, son esprit, ses appuis. Marie-Antoinette lui voue une haine non dissimulée. Et dès qu'elle a épousé Louis XVI, elle en veut à la Du Barry. Cette maîtresse du grand-père, elle a 26 ans, certes, mais elle se prend pour qui ? Cela vaudra d'ailleurs une remontrance de l'impératrice d'Autriche à Marie-Antoinette, qui lui demandera d'être un petit peu plus diplomate. Évidemment, dès que Louis XV ferme les yeux, Marie-Antoinette exige le couvent pour la Du Barry, qui, de nuit, rejoint l'abbaye de Pont-aux-Dames à Couilly, dans le diocèse de Meaux. mais la dame la plus belle de Paris avait encore des atouts dans son jeu. Et l'année d'après, elle rentrait en possession de son château de Louvciennes que Louis XV lui avait donné. Elle était fine, la guêpe. On ne parla plus d'elle à la cour. Et c'est vrai, on ne parlait plus alors que de Marie-Antoinette, qui avait un caractère extrêmement bien trempé. Donc Louis XVI se retrouve donc roi malgré lui. Il va décider de s'entourer de compétences. Mais pas trop. Il estime, Louis XVI, que un gouvernement avec 7 ministres, c'est bien suffisant. Parce que après, c'est beaucoup trop compliqué à diriger. Donc, il va choisir ses hommes pour s'entourer, certes, mais également pour mettre en place un certain nombre de réformes, car pour lui, il faut des réformes. Turgot arrive aux finances pratiquement en même temps que lui et propose des réformes nécessaires. D'abord, il faut réduire le train de vie de la cour. De nos jours, on dirait réduire le train de vie de l'État. Réduction des frais de bouche. Réduction de la cour des menus plaisirs. Il faudra passer les équipages de chasse de Versailles de 6000 chevaux à 1800, c'est bien suffisant. Son frère lui dit que non, ça va pas. Charles X et Louis, ses frères lui disent « Tu es un roi avare, c'est pas possible. Hein ?» Et ce n'est pas tout. Le peuple de Paris a faim, il le sait. Il fait distribuer 100 000 livres aux plus pauvres. Avec Turgot, il prévoit que les corvées soient remplacées par un impôt proportionnel à la fortune. Et là, on ne grogne pas dans les chaumières, mais dans les salons parisiens, dans les beaux châteaux et dans les évêchés. Là, c'est un peu la fronde des gens aisés. Et cela va lui attirer quand même quelques ennuis. Le roi dira, il faut quand même un petit peu penser à la province, messieurs les évêques. La situation des curés et des vicaires de province est catastrophique. Ils vivent dans la misère. Il faut qu'on prenne soin d'eux. L'impôt territorial, entre guillemets, on pense déjà à la taxe foncière et à la taxe d'habitation sous une forme un peu primaire. Ça veut dire que si on habite une petite maison, on ne payera pas beaucoup d'impôts, mais si on habite un très beau château, on paiera un peu plus d'impôts. Et là, évidemment, ça grince des dents. Les mesures ont un effet que Turgot n'avait pas prévu en libérant la circulation des grains sur le territoire. Les prix explosent. Et en plus, en 1775, au printemps, les récoltes de 1774 n'ont pas permis ta tante, cette récolte de 75, elle n'a pas fait la soudure, parce qu'elle est tardive. Il y a eu du trop mauvais temps. C'est la révolte des farines. Les émeutiers viennent gronder aux portes du palais de Versailles. Ils envahissent les boulangeries de Paris. En province, la fronde grandit. Il faut envoyer des troupes. Et, hélas, les troupes vont sévir. Elles vont tirer. Parce que, là encore, dans ces troupes, il y a quelquefois de jeunes officiers qui ne sont pas aguerris et qui prennent peur face à cette foule menaçante. Mais c'est vrai, on a connu ça ces derniers temps. Donc, ce qu'on pourrait appeler la police, le maintien d'ordre, va tirer. Il y a des morts. Et là, pour Louis XVI, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. Ça le rend malade. Et il est persuadé que Turgot a raison, qu'il faut décentraliser le pouvoir, permettre une meilleure équité sociale. Mais décentraliser, c'est enlever du pouvoir au Parlement de Paris. Alors, évidemment, le Parlement de Paris n'est pas d'accord. On parle même, ce Parlement, de l'envoyer en province. Là, tout le monde est fâché. Hélas, Turgot se mêle aussi un petit peu d'affaires étrangères. Il veut démettre de ses fonctions l'ambassadeur de France à Londres. Hélas, cet ambassadeur est protégé par Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, comme on l'a vu tout à l'heure, au caractère bien trempé, va dire à Louis XVI, il y en a assez, ce Turgot, moi, c'est pas lui qui est le roi, c'est pas normal, c'est à toi de prendre tes responsabilités, c'est à vous, parce qu'à l'époque on se voit, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Alors, Louis XVI, la pression, puis à la fin, il trouve un prétexte. Il dit, Monsieur Turgot veut être moi, et moi je ne veux pas qu'il soit moi. C'est moi le roi. On remplace Turgot, et c'est Necker qui arrive. Il a compris la leçon, Necker. Il faut renflouer les caisses de l'État sans irriter les riches et les propriétaires. Donc, il va lancer une loterie nationale. Et puis, il va avoir recours à l'emprunt. Mais évidemment, ayant recours à l'emprunt, la dette va augmenter. Et la dette augmente, augmente, augmente. Et d'ailleurs, certains économistes de nos jours disent que la France a une dette équivalente en 2020 à celle de 1788. C'est peu dire. Et puis, Louis XVI, conseillé par Necker, va céder sur un appel de l'Amérique et Benjamin Franklin, qui a obtenu un corps expéditionnaire contre les Anglais, commandé par Rochambeau le Vendômois et Lafayette. Et là, il va engloutir une fortune qui ne va pas lui rapporter grand-chose. Parce que, pendant son règne, ça va lui coûter cher, mais rien ne va lui rapporter. Même si on peut dire qu'un jour, les troupes américaines entrant sur le sol français se seraient écriées « Lafayette, nous voilà !» C'était un retour 150 ans plus tard. Malheureusement, donc, taxer les riches, ça n'a pas amélioré la situation dans les campagnes. Parce que les vases communicants ne communiquent pas toujours. Il y a quelquefois, entre guillemets, des bouchons. Donc, la situation dans les campagnes est difficile. Alors, Louis XVI va se dire, c'est peut-être mes ministres qui ne sont pas bons, donc je vais en changer. Et c'est la valse des ministres des Finances qui commence. Des finances qui s'aggravent après chaque passage au portefeuille. Et ce pauvre Louis XVI se prend la tête et dit « On s'est encore trompé de ministre. » Et après avoir tâtonné, il va faire revenir Necker en 1788. Necker qui a déjà été aux finances et qui n'a pas réussi avec sa loterie, avec son impôt sur les riches, à renflouer les caisses de l'État. La dette est vraiment trop importante. La situation est catastrophique. Comment faire ? Alors, surtout que cette année 1788, la récolte est mauvaise. L'hiver est terrible, avec des moins 20 degrés. Il n'y a plus de pain. Les pauvres meurent de faim. Le 5 mai, le roi ouvre les états généraux, qui se fichent complètement des problèmes financiers de la France, que Necker essaie de développer devant eux. Ils ont d'autres objectifs. La noblesse, le 11 mai, décide de délibérer à part, alors que le clergé reste auprès du tiers d'État. Le 20 juin, la salle des menus plaisirs où se rassemblait le tiers d'État est fermée, et l'Assemblée s'installe au jeu de paume. C'est le serment du jeu de paume. Mirabeau, nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Louis XVI intervient le 23 juin. Oui, je suis d'accord à l'égalité devant l'impôt. Oui, à la liberté individuelle. Oui, à la liberté de la presse. Je suis pour la fin du servage. Et Louis XVI met en garde contre la division des trois ordres qui conduira à des excès difficiles à contrôler. Necker est démis de ses fonctions le 11 juillet 1789 par le roi. Erreur. Necker est adulé par le peuple parisien et surtout par la presse, les médias. Le peuple gronde et le 14 juillet, il prend la Bastille. On pourrait se demander pourquoi prendre la Bastille. Il n'y a que 7 prisonniers. Certes, du beau monde, mais il y a surtout de la poudre. Parce que le peuple est allé avant prendre des fusils aux Invalides, mais il n'y a pas de poudre. Et à la Bastille, il y a de la poudre. Par contre, on aurait très bien pu prendre la prison de Bicêtre. Il y a 3500 prisonniers, tous du tiers état. Mais le tiers état, ça n'intéresse pas grand monde. Cette prise de la Bastille, c'est une conséquence qui va se transformer en révolution. Le roi ne comprend pas tout. Il veut le bien de son peuple, et son peuple se révolte. Le 15 juillet au matin, il est informé de la prise de la Bastille. Il demande alors à la Rochefoucauld « Alors, c'est une révolte ?» Et la Rochefoucauld lui répond « Non, sire, c'est une révolution. » Les privilèges sont abolis la nuit du 4 août, cela ne suffit pas. 5 à 6 000 femmes marchent sur Versailles pour réclamer du pain. « Le peuple veut du pain ?» Mais Donnez-lui de la brioche, dira Marie-Antoinette. Le roi et sa famille sont contraints de rejoindre Paris. On les conduit au palais des Tuileries. Ce sont les révolutionnaires qui dirigent. À partir de maintenant, un évêque par département. C'est nous qui avons créé, par la Révolution, ces départements. Donc un seul évêque, élu, comme les curés. Il n'y a plus de curés. Les réfractaires, on va s'en occuper. Donc, ils sont élus. Et s'ils ne sont pas d'accord, on va s'occuper d'eux. Les biens du clergé confisqués. Évidemment, le clergé va être malmené. Louis XVI accepte à contre-cœur tout cela. Mais, sur la pression de Marie-Antoinette, le roi et sa famille s'enfuient incognito le 20 juin 1791. Hélas, ils sont reconnus à Varennes et ramenés à Paris. Louis XVI plaide qu'il voulait simplement s'installer en Lorraine, mais on le croit. Il est innocenté. Le peuple de Paris est versatile. On applaudit le roi. Mais le 10 août 1790, après les déclarations du duc de Brunswick, qui donne l'ordre à la Révolution et aux dirigeants de ne pas toucher aux cheveux du roi et de la reine, le peuple se fâche. Il va prendre les Tuileries. Il y a près de 1000 morts. La famille royale est conduite au temple. C'est une prison. Louis XVI lit. Il éduque son fils et il prie. Le procès de Louis XVI va s'ouvrir le 11 décembre 1792. On lui dit « Capet, qu'as-tu à dire pour ta défense ?» Et Louis XVI répond « Capet n'est pas mon nom, c'est celui de mes ancêtres. » Le 17 janvier, il est condamné à mort pour trahison et collusion avec l'Autriche qui a attaqué la France par 361 voix contre 360. La voix de différence, c'est celle de son cousin Philippe d'Orléans, qui sera guillotiné à son tour au mois d'octobre. Le 21 janvier, Louis XVI est guillotiné, place de la Concorde. Le corps est recouvert de chaux vives et enterré au cimetière de la Madeleine, où la plupart des guillotiniers parisiens sont enterrés. Marie-Antoinette, guillotinée à son tour le 16 octobre, rejoindra son mari. Aujourd'hui, à la place du cimetière, au milieu d'un petit jardin, dit Louis XVI, à deux pas de la gare Saint-Lazare, a été érigée une chapelle expiatoire. Les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette ont été transférés à Saint-Denis par Louis XVIII. C'est le début d'une grande terreur. La France est aux mains de Robespierre et de Saint-Just. Plusieurs guillotines circulent. On va couper 14 à 15 000 têtes. À Nantes, on va noyer les mariés de Carrier. 18 000 personnes liées deux à deux jetées dans la Loire. On utilise la guillotine pour les nobles, les ecclésiastiques, les évêques, les curés réfractaires, les vicaires, les ursulines, notamment le grand-oncle d'une de nos paroissiennes à Châtenay, qui s'appelle Geneviève, aurait été guillotiné en place d'armes à Valenciennes le même jour que les ursulines, parce qu'il avait osé être réfractaire. Et puis on utilise aussi la guillotine sèche, direction le bagne de Cayenne, comme Pitou, dont on va parler, ou le curé de Saint-Valérien. La royauté mourait, la République naissait. Le roi sans doute le plus social de tous les temps, le plus intègre, de moralité irréprochable. Celui qui voulait à tout prix le bien de son peuple. Un catholique et chrétien très profond. Il aimait son prochain. Il s'écria sur l'échafaud « Je suis innocent, que mon sang cimente le bonheur des Français. » C'était un dimanche matin, le 21 janvier 1793.